voir quelques versets de l'Évangile selon Jean. Quelques versets du chapitre 5 de l'Évangile selon Jean. Au verset 32 du chapitre 5, c'est un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous, vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme, mais je dis ces choses afin que vous, vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Et moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais rendre, témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix, ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous. Car celui-là que lui a envoyé, vous, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de voir les hommes, mais je vous connais, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient dans son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, Moïse, en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Dans un autre passage, dans la deuxième épître à Timothée. Au chapitre 3e de la deuxième épître à Timothée, au verset 14. Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Et un dernier passage au livre de l'Apocalypse, au premier et au dernier chapitre. Livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, le verset 3. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Et au dernier chapitre, au verset 6, mais il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dans les versets que nous avons lus au chapitre 5 de l'Évangile selon Jean, il nous est parlé de divers témoignages. Il nous est parlé de 4 témoignages selon lesquels véritablement le Seigneur Jésus a été envoyé par Dieu le Père quatre témoignages prouvant que véritablement le Seigneur Jésus était l'envoyé du Père. Cette expression, l'envoyé du Père, est une expression fréquente dans le quatrième évangile. Bien des fois, le Seigneur Jésus parle de la volonté de celui qu'il a envoyé, qu'il est venu lui-même faire une telle volonté. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quatre témoignages, chers amis. Quel est le premier de ces témoignages? C'est le témoignage de Jean le baptiseur, comme il est dit au verset 33. Puis le deuxième témoignage est celui des œuvres du Seigneur Jésus, verset 36. Les œuvres mêmes que je fais en témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Et puis, le troisième témoignage, le témoignage du Père lui-même, au verset 37, le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Et enfin, au verset 39, nous avons le quatrième témoignage, qui est celui des Écritures. Nous sont les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous allons donc, chers amis, retenir précieusement la mention de ces quatre témoignages qui sont là pour prouver que véritablement le Seigneur Jésus avait été envoyé par Dieu le Père. Il était l'envoyé, il était l'apôtre par excellence. Ce que veut dire ce mot « apôtre » ? Le mot « apôtre » veut dire « envoyé ». L'apôtre est un homme qui est envoyé par Dieu. Le Seigneur Jésus a été l'apôtre par excellence, au-dessus, bien au-dessus de quelques serviteurs que ce soit, le Seigneur Jésus, lui, a été envoyé par Dieu Père. Il est donc parlé d'un premier témoignage. Vous avez envoyé auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Verset 35. Celui-là était la lampe ardente et brillante. Et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. C'est un beau témoignage que le Seigneur Jésus rend à Jean le baptiseur. C'est pas peu de chose que de dire d'un serviteur qu'il n'était pas une lampe. Il était la lampe brillante, il était la lampe ardente et brillante. Effectivement, un serviteur suscitait à un moment donné, à un moment exceptionnel, il est le précurseur. Il n'y en a pas eu deux, chers amis. Il y a eu un précurseur. Ce précurseur, c'était Jean le baptiseur, et voilà pourquoi le Seigneur Jésus put dire de lui, il était non pas une lampe, comme s'il y avait eu plusieurs précurseurs, il était la lampe, ardente et brillante. Et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. En effet, chers amis, en Israël, on s'était réjoui en prophète. De nouveau un prophète, après 4 siècles, après 400 ans, où le peuple d'Israël avait été sans prophète. Il avait connu de grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, d'autres encore, ceux que l'on appelle des petits prophètes, et depuis le temps de Malachie, plus de prophètes. Il n'y a plus eu de prophète suscité jusqu'à ce que vienne. 400 ans plus tard, Jean le baptiseur. Alors, quand Jean le baptiseur est venu, on s'est réjoui. On s'est trouvé honoré d'avoir à nouveau un prophète. Tant de siècles où on n'avait plus de prophète, tant de générations avaient passé sans que l'on puisse entendre un prophète. Alors que les ancêtres avaient connu des prophètes, avec quels hommes? Un Ésaïe, un Jérémie, pour n'en citer que deux. Malachie a été suscité, son ministère a pris fin, il n'y a plus eu de prophète depuis le prophète Malachie. Les années ont passé, les siècles ont passé, 400 ans, et voilà, de nouveau, Dieu dans sa grâce qui suscite un prophète. Vous avez voulu vous réjouir. Il s'était réjoui, c'est vrai, Mais le Seigneur doit dire pour autant, celui-là était la lampe ardente et brillante, et vous, vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Est-ce que le peuple avait reçu le message de Jean-Baptiseur? L'avait-il reçu? Il y avait eu des âmes sincèrement humiliées, des âmes qui montraient qu'elles reconnaissaient leur péché en demandant à Jean-Baptiseur à être baptisé. Certainement, il y avait des âmes, mais il n'y en avait pas peu. Il y avait bien des âmes repentantes, pénitentes. C'est alors que, nous en parlons peut-être un peu plus tard, c'est alors que la gloire du Seigneur Jésus, qui demande à être baptisé lui-même, est alors revendiquée par Dieu le Père. Comme si Dieu le Père disait, prenez garde, faites attention. Mon fils bien-aimé demande à être baptisé, mais il est à mettre bien en dehors, il n'a absolument rien à faire, moralement parlant, avec ses nombreuses âmes pécheresses, mais pénitentes, et qui venaient pour ne recevoir la bénédiction que Dieu réservait à ses âmes par le moyen du ministère de Jean le Baptiseur. Mais est-ce que le peuple dans son ensemble avait reçu Jean le Baptiseur? Certainement pas. Et même, c'était des âmes souvent jugées sévèrement du point de vue de la moralité par les enfants, les hommes. Ces personnes avaient reçu le message de Jean le Baptiseur. Que dit-il dans le premier évangile, au chapitre 21, au verset 31? À la fin du verset 31 du chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur dit, « En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous demandent dans le royaume de Dieu, verset 32, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru et vous, l'ayant vu, vous n'en avez pas eu remords ensuite pour le croire. » On avait pourtant cet exemple, même les gens de personnes jugées sévèrement, il y avait là les publicains qu'on n'aimait pas, il y avait là les prostituées, elles avaient reçu, ces femmes avaient reçu le message de Jean le Baptiseur. Vous l'avez vu vous-même? Est-ce que vous avez eu le moindre remords en voyant ceux que vous appelez de grands pécheurs recevoir le message de Jean le Baptiseur? Non, vous n'avez eu aucun remords pour croire en Jean le Baptiseur. Vous n'avez pas cru en lui, comme il est dit ici, n'ayant aucun remords pour le croire. C'est là le témoignage de Jean le Baptiseur. Et ce témoignage, le Seigneur doit dire, vous vous êtes réjouis à sa lumière, je le sais, mais y a-t-il eu véritablement réception dans vos cœurs du message divin que Jean le Baptiseur a communiqué? Non. Alors le Seigneur parle du deuxième témoignage, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais rendre témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Deuxième témoignage, un témoignage rendu sensible, rendu vivant par les œuvres même du Seigneur Jésus. Les hommes, les enfants d'Israël, les conducteurs du peuple en particulier, auraient dû recevoir le Seigneur au moins en voyant les œuvres qu'il accomplissait. N'est-il pas remarquable de penser que c'est dans ce quatrième évangile, l'évangile du Fils de Dieu, qu'il est parlé des sept miracles qu'il a accomplis? Depuis le premier miracle, la noce de Cana, où il eut de l'eau changée en vin, jusqu'au dernier miracle, cette pêche miraculeuse dont nous entretient le dernier chapitre de cet évangile. Il est remarquable de penser que ces deux scènes, premier miracle de notre Seigneur, dernier, septième miracle de notre Seigneur, ces deux scènes devaient représenter la gloire de notre Seigneur à venir sur la terre, c'est-à-dire le millénium. La noce de Cana eut lieu ce fameux troisième jour symbolique, représentant le millénium. Et au chapitre 21, troisième manifestation en gloire de notre Seigneur, cette pêche miraculeuse qui démontre son absolue puissance, cette pêche, toute cette scène où a lieu cette pêche miraculeuse représente, et d'une façon très belle, chers amis, très belle, le millénium. Cette troisième manifestation de la gloire du Seigneur représente le millénium à venir. Qu'on prenne le premier, qu'on prenne le dernier miracle, eh bien, ces deux miracles représentent le millénium à venir. Eh bien, chers amis, c'était la première œuvre de notre Seigneur, un miracle. Il y eut ce septième miracle du chapitre 21. Entre deux, tout au cours du chapitre, nous avons cinq miracles. Il y a donc là sept miracles, une plénitude de la puissance glorieuse de notre Seigneur. Les hommes n'auraient pas dû croire au Seigneur, ils n'auraient quand même pas pu faire un pas vers le Seigneur pour le recevoir, pour croire en lui. Ah, chers amis, ce que nos anciens frères ont lu souvent, que des miracles n'avaient jamais converti qui que ce soit, eh bien, dans le cas particulier, nous en avons une preuve suprême. Les enfants d'Israël auraient dû venir au Seigneur en voyant tout un développement de puissance miraculeuse de sa part. On n'a pas reçu le Seigneur. On n'a pas reçu ce témoignage rendu par ses propres œuvres. Le Père m'a donné de telles œuvres à faire afin qu'il rendit témoignage que j'étais vraiment envoyé par lui. C'est ce qui est dit au verset 18e, les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Un troisième témoignage, chers amis, au verset 37. Le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Le témoignage du Père, nous avons bien compris, le témoignage de Jean le Baptiseur, le témoignage des œuvres accomplies par le Seigneur Jésus, et maintenant le témoignage du Père lui-même. Ils sont divers, ils sont variés, les témoignages que Dieu a rendus à l'endroit de son Fils bien-aimé. Nous ne pouvons pas, ce soir, nous étendre sur ce sujet si élevé, si glorieux qu'il soit, nous préférons nous arrêter à un témoignage que Dieu a rendu et au sujet de son Fils et que nous trouvons dans le premier évangile. Pas seulement dans le premier évangile, mais nous lisons ce que le premier évangile dit, précisément en rapport avec la scène du baptême du Seigneur au Jourdain dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans l'évangile selon Matthieu, quel est donc ce témoignage du Père? Chapitre 3 de l'évangile selon Matthieu, nous lisons au verset 13e. Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Et Jésus répondant lui dit, laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau, et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix qui venait des cieux disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Nous voyons donc le Seigneur Jésus, au jour de son abaissement, nous voyons le Seigneur Jésus baptisé, puis remontant de l'eau. Puis, il nous est parlé des cieux. Notons bien, chers amis, la précision de l'Écriture. Les cieux, lui, furent ouverts. Nous avons parlé du sujet il n'y a pas longtemps. Les cieux lui furent ouverts. Les cieux lui ont été ouverts pour lui-même et pas pour quelqu'un d'autre. Dans l'évangile selon Luc, il est dit les cieux furent ouverts. Dans notre évangile, il nous est dit voici les cieux lui furent ouverts. Ils ont été ouverts pour le Seigneur et pour personne d'autre. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? Il vit. L'Esprit de Dieu descend comme une colombe et venir sur lui. Puis, une voix se fait entendre, et vient des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dans cette scène d'abaissement, à laquelle notre Seigneur participe bien volontiers, nous avons la présentation des trois personnes de la divinité. Il y a tout d'abord la voix qui se fait entendre, c'est la voix du Père. Puis, celui-ci est mon Fils bien-aimé, mais tout d'abord, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Chers amis, une telle constatation donne une ampleur particulière à un tel récit. L'Esprit Saint, la voix du Père et la personne du Fils bien-aimé. Et que dit donc cette voix? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Chers amis, on lit souvent cette parole de la manière suivante. Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Mais il ne faut pas dire cela, il ne faut pas dire tout mon plaisir. Quand nous disons tout mon plaisir, c'est comme si nous donnions une espèce de limitation aux délices de Dieu à l'égard de la personne de son Fils. Quand Dieu dit, en lui j'ai trouvé mon plaisir, Dieu a tout dit. Et sur la scène, lors de la scène de la transfiguration, il en est de même. En qui j'ai trouvé mon plaisir, il n'est pas nécessaire de vouloir renforcer cette expression en disant tout mon plaisir. Nous ne renforçons pas l'expression. Au contraire, nous avons plutôt la tendance à la diminuer. Disons exactement ce que le texte dit, ce que la voix venant du ciel, venant des cieux a dit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Trois fois, dans le premier évangile, trois fois, nous avons la mention du Fils bien-aimé. Trois fois. Nous avons un autre chapitre ici, au jour de l'abaissement du Seigneur, au chapitre 12. Au jour de sa réjection, Matthieu 12, verset 16e, il leur défendit expressément le rançon au public, afin qu'il accomplisse les dédits par Esaïe, prophète, disant, « Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera le jugement aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait produit en victoire le jugement, et les nations espéreront en son nom. » C'est le deuxième passage, et nous sommes au jour de la réjection du Seigneur. À ce moment-là, le témoignage du prophète est rappelé. Qu'avait dit il y a bien longtemps le prophète Esaïe? Il avait dit, voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a trouvé son plaisir. Et enfin, nous sommes alors au jour de la gloire de notre Seigneur, mais c'est vrai, une gloire momentanée. Nous sommes sur la montagne de la transfiguration, et là, à nouveau, nous entendons cette voix venant de la nuée, de la présence même de Dieu. Verset 5 du chapitre 17, « Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse découverte, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir, écoutez-le. » Et puis les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont disparu. Et au verset 8, il dit, et eux, les disciples, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Il y a dans ces passages, il y a deux verbes très simples, deux verbes que nous employons tous les jours. Le premier, c'est le verbe écouter, et le deuxième, c'est le verbe voir. Ce sont les infinitifs les plus simples de la langue française. Écouter et voir. Et par eux-mêmes, ils définissent ce qu'est une vie chrétienne heureuse. Pourquoi? Pourquoi heureuse? Parce que on écoute la voix du Seigneur, et d'un autre côté, on regarde le Seigneur, on contemple le Seigneur, on le voit. Et voilà, chers amis, ce que nous avons à rechercher tout d'abord. Nos chercheurs ont besoin de l'apprendre. Nous avons à rechercher cela, tout d'abord, écouter. Écoutez ce que Dieu a à dire. Nous entendons sa voix par moyen de la parole. Nous écoutons sa voix. Il nous parle par la parole. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Nous avons d'abord à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu qui nous appelle à lui, la voix de Dieu qui nous conduit, qui nous montre le chemin que nous avons à suivre. Puis d'un autre côté, en lisant la parole de Dieu, nous apprenons à connaître le Seigneur. Dieu nous révèle la personne de son Fils et nous avons besoin davantage de voir le Seigneur, de penser au Seigneur, de réaliser cette communion avec le Seigneur. Nous en avons besoin, chers amis. C'est ce qu'on appelle le côté méditatif ou contemplatif de la vie chrétienne. Aujourd'hui, on voit l'autre côté de la vie chrétienne, c'est-à-dire une vie d'activité, et l'on peut dire même d'hyperactivité, et on peut arriver dans des états d'agitation qui ne sont plus selon Dieu. C'est pas cela, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord écouter Dieu, et ensuite prendre le Seigneur. Et puis, depuis là, Dieu nous montre son chemin, le Seigneur nous indique la route à suivre, alors, nous répondons à son appel et nous avançons dans le chemin du service. Alors là, l'activité se manifeste, une activité pour Dieu, une activité pour sa gloire, et cette activité est une activité à la gloire de Dieu parce qu'elle est dictée par Dieu lui-même. Voilà, chers amis, ce qu'il vous faut retenir de cette pensée concernant notre vie chrétienne. D'un côté, cette vie de méditation au sujet de notre Seigneur, et d'un autre côté, alors, le côté actif de la vie, accomplissant le service auquel le Seigneur nous appelle. Mais il ne faut pas commencer par le côté actif, puis laisser un peu de côté, ou laisser en arrière, ce que l'on appelle, et à juste titre, ce côté méditatif ou contemplatif de la vie chrétienne. Écoutons la voix de Dieu, contemplons notre Seigneur et alors laissons-nous diriger par notre Seigneur dans le chemin du service auquel il nous appelle. Donc, chers amis, trois fois la mention du bien-aimé dans ce premier évangile. D'abord, au jour de son abaissement, le baptême. Ensuite, au jour de sa réflexion, d'après Matthieu 10, 12, et témoignage du prophète Esaïe. Et enfin, au jour de la gloire. Au jour de la gloire de notre Seigneur, une gloire qui a été là un court moment, mais qui a été là, notre Seigneur a été transfiguré, il est même dit que son visage resplendit comme le soleil. C'est un échantillon de la gloire messianique de notre Seigneur. Un jour, il sera vu sur la terre tel que le roi Messie, que les ancêtres auront rejeté. Mais maintenant, dans un moment, vu comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est un petit échantillon de cette gloire que nous avons sur la sainte montagne. Il est dit, son visage resplendit comme le soleil. Mais quand l'apôtre Paul parle dans l'une de ses dernières apologies devant le roi Hérode Agrippa, il parle de la lumière du soleil qu'il a jetée à terre. Il a été jeté à terre, terrassé. Mais qu'est-ce qu'il dit du soleil? où c'était une lumière plus éclatante, la lumière du soleil. Ici, c'est comme le soleil. En acte 26, c'est une lumière plus éclatante que la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Pour nous, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? C'est qu'ici, nous avons un échantillon de la gloire royale de notre Seigneur. Dans acte 26, où il y a le rappel de la conversion de Saul de Tarse, il lui a été donné de voir le Fils de Dieu lui-même, qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Chers amis, une lumière éclatante comme celle du soleil, et puis une lumière plus éclatante que celle du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chers amis? La gloire royale de notre Seigneur nous réjouit. Nous sommes dans l'admiration en pensant à sa gloire qui est déployée devant nous déjà par les psalmistes et les prophètes. Mais la gloire du Fils de Dieu pénètre plus encore au fond de notre cœur. Nous sommes davantage touchés par la gloire du Fils de Dieu. Non pas que nous sous-estimions quoi que ce soit sa gloire royale, la gloire de celui qui règnera dans l'univers tout entier, mais sa gloire de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, eh bien, chers amis, cette gloire nous touche encore davantage. Et n'est-il pas frappant que Saul de Tarse parlera, dès qu'il sera debout sur ses pieds, qu'il pourra aller, il parlera du Fils de Dieu et prêchera qu'il est le Christ véritablement. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres. Vous n'entendez jamais parler du Fils de Dieu. C'est pas extraordinaire, cela? Vous entendez parler du Seigneur. Vous entendez parler du Christ. Vous entendez parler de Jésus. Vous entendez parler du prince, celui que Dieu a établi, exalté comme prince. Mais le titre de gloire, le Fils de Dieu, vous ne le trouvez pas jusqu'au chapitre 9e. C'est un seul de tasse. Qu'il a été donné, d'après le livre des Actes, de parler pour la première fois du Fils de Dieu. Et il s'est hâté d'aller à Damas pour parler du Fils de Dieu et dire que vraiment le Fils de Dieu était le Christ des Écritures. Et l'apôtre Paul deviendra ce glorieux héros, chargé d'annoncer les bougies de Dieu, le Fils de Dieu tout particulièrement parmi les nations, et jusqu'au bout de la terre habitée tout entière. C'est à l'apôtre Paul qu'il a été dévolu cette tâche hautement digne de parler du Fils de Dieu. Nous répétons, lisons le livre des Actes jusqu'au chapitre 9. Il faut arriver au milieu du chapitre 9 pour entendre parler pour la première fois, non pas de Jésus, mais de Jésus, le Fils de Dieu. C'est une lumière plus éclatante, la gloire du Fils de Dieu, une lumière plus éclatante que la lumière du soleil. Sa gloire royale est comparée, à propos de la Sainte Montagne, au resplendissement de la lumière du soleil. Pas davantage, la lumière du soleil. En acte 26, plus éclatante que la lumière du soleil. Eh bien, chers amis, voilà ce témoignage qui est rendu par le Père au sujet de son Fils, et en particulier comme étant son bien-aimé. Retenons, chers amis, retenons ces trois passages du premier évangile. Matthieu 3, Matthieu 12, Matthieu 17, où il nous est parlé du Fils bien-aimé du Père. Nous passons, chers amis, au quatrième témoignage, où il nous est dit ceci. Tout d'abord, vous voyez que le Seigneur va dénoncer l'incrédulité du peuple. Verset 38, « Vous n'avez pas sa parole de leur entendre, car celui-là que lui a envoyé, vous ne le croyez pas. » Et puis alors au verset 40, plus grave encore, après endurcissement dans l'incrédulité, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans l'Ancien Testament, cet endurcissement du peuple est déjà pas seulement souligné, mais stigmatisé. Lisons le chapitre 30 du livre du prophète Ésaïe. En Ésaïe 30, que nous est-il dit, en rapport avec cet endurcissement du peuple, Ésaïe 30, au verset 15, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force, mais vous ne le voulez pas. Mais vous ne le voulez pas. Quelle belle appel, chers amis. Quelle tendresse dans cet appel. Revenez. Tenez-vous en repos. Alors, vous réaliserez la délivrance. Vous réaliserez que c'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. On ne peut pas dire davantage les paroles qui soient marquées par l'Esprit de grâce, davantage. Mais vous ne le voulez pas. Et Jérémie 6, on retrouve également quelque chose semblable. Donc Jérémie 6, verset 16. Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez, et entourez-vous touchant les sangs des anciens, quelle est la bonne voie. Et marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes, mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. C'est pas sérieux, chers amis, cet endurcissement. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas vous tenir en repos afin de réaliser que c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre force. Ici, le prophète appelle les hommes de son peuple à s'enquérir touchant les sentiers anciens, à y marcher pour trouver du repos pour leurs âmes. Ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Et un dernier passage, chers amis, au chapitre 18 du même livre de Jérémie, au chapitre 18, au verset 11, Jérémie 18, verset 11, et maintenant parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, disant, ainsi dit l'Éternel, voici moi, je prépare contre vous du mal, et je forme un dessein contre vous. Revenez donc chacun de sa mauvaise voie, et amendez vos voies et vos actions, mais il dit, c'est en vain, car nous marcherons suivant nos pensées, et nous ferons chacun selon l'obstination de son mauvais cœur. Quel endurcissement du cœur de l'homme, endurcissement qui est déjà souligné par les prophètes, et que le Seigneur doit hélas confirmer quand il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici ce soir qui n'aurait pas la vie, qui ne serait donc jamais venu à Jésus, qui n'aurait jamais répondu à son appel, qui n'aurait jamais réalisé qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. Y aurait-il, parmi les nombreux jeunes gens et jeunes filles qui sont ici ce soir, y aurait-il quelqu'un qui ne connaisse pas le Seigneur Jésus pour son sauveur personnel? Et ce soir, la parole de Dieu les invite une fois de plus à venir à Jésus pour avoir la vie. Et puis vous ne voulez pas venir. Vous voulez dire, comme les anciens du peuple d'Israël, autrefois, au jour des prophètes, nous n'irons pas, nous ne marcherons pas dans un tel chemin. Nous marcherons selon l'obstination de notre mauvais cœur. Chers amis, réfléchissez bien. Le temps passe et il est plus tard que nous le pensons. C'est solennel, cela. Il est plus tard que nous le pensons. C'est ce soir qu'il faut venir à Jésus pour avoir la vie. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la vie? La vie éternelle, certainement. Et la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est une vie qui dure toujours. Mais est-ce seulement cela? Pas du tout, chers amis. La vie éternelle, c'est pas seulement une notion de temps ou d'éternité, mais c'est une notion de nature de Dieu. Avoir la vie éternelle, c'est avoir la nature même de Dieu. C'est très grand, cela. C'est très grand. le niveau auquel la grâce de Dieu nous appelle lorsque nous convertissons. C'est très grand. Avoir la vie, c'est avoir la nature de Dieu. Et pas seulement une vie qui demeure toujours en contraste avec le temps que nous vivons, marqué par des siècles, par des années, par des mois, des semaines, des jours. C'est pas seulement cela. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Avoir la vie, c'est avoir la nature même. Un pécheur mort dans ses fautes et dans ses péchés peut avoir la nature de Dieu. C'est extraordinaire, ça. C'est véritablement le mystère de la grâce de Dieu à l'égard de l'homme et de l'homme pécheur. Chers jeunes gens, venez au Seigneur ce soir. Ce soir, n'attendez pas, n'attendez même pas l'espace d'une nuit. Ce soir, venez à Jésus si il y a une âme parmi vous, parmi nous, qui ne possède pas Jésus pour son sauveur personnel. Il y a un quatrième témoignage, chers amis, c'est celui des Écritures. Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Exactement, le passage n'est pas un appel, une exhortation. C'est comme si le Seigneur disait, vous sondez les Écritures, vous, vous passez votre temps à cela, sondez les Écritures, bien entendu, de l'Ancien Testament, vous les étudiez, vous les sondez, et ces anciennes Écritures me rendent témoignage de moi et de moi seul. Et puis vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi, comme il est dit ici, dont ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est quand même extraordinaire. Vous prétendez sonder les Écritures, mais vous devriez me connaître. Les Écritures, l'Ancien Testament rendent témoignage de moi. C'est pas pour rien qu'à la fin du chapitre, le Seigneur dit, Moïse a écrit de moi. Eh bien, commencez par croire ce que Moïse a dit et ce que Moïse a écrit. Mais si vous voulez pas croire ce que Moïse a dit, il a parlé de moi, jamais vous ne croirez mes paroles. C'est comme ça que le chapitre se termine. Jamais vous ne croirez mes paroles. Eh bien, chers amis, l'appel, son des Écritures, bien entendu, a toute sa valeur. Mais le Seigneur montre à ces conducteurs du peuple, vous avez la prétention de sonder les Écritures, mais vous devriez connaître, puisqu'ils rendent témoignage de moi, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Vous sondez les Écritures, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Chers amis, sondons alors dans le bon sens des Écritures. Maintenant, nous sommes venus au Seigneur. Chers gens, vous êtes venus au Seigneur. Vous avez appris à connaître le Seigneur comme étant votre sauveur. Vous voulez apprendre encore à connaître davantage. Mais sondez les Écritures. Ah, c'est un bon travail. Ah, c'est le meilleur des travaux. Celui-là, sondez les Écritures. Et vous apprendrez à connaître le Seigneur davantage et même toujours mieux. Et quel sera alors le résultat d'une telle étude des Écritures? Le résultat sera d'apprendre à connaître mieux le Seigneur pour aussi l'aimer mieux. Le suivre mieux, le servir mieux, avec plus de fidélité. Voilà, chers amis, le but d'une lecture de la parole, d'une étude de la parole, même sonder les Écritures. Pourquoi? Pour apprendre à connaître le Seigneur Jésus. Ce sont elles, en effet, les Écritures qui rendent témoignage de moi. Nous avons donc le privilège d'avoir en nos mains la parole de Dieu. La parole oralement présentée, autrefois au cours des siècles, mais aussi la parole écrite. C'est cela, l'écriture sainte. Et du reste, l'expression écriture sainte est une écriture de la parole même de Dieu. En effet, tout au début de l'épître aux Romains, il est dit ceci, et précisément en rapport avec la connaissance du Seigneur Jésus, début de l'épître aux Romains, chapitre 1er, le verset 1er, Romains 1, 1. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures, touchant son fils. De saintes écritures. Et nous avons lu ce passage de la deuxième épître à Timothée qui nous parle de la ressource suprême valable pour tous les temps, pour le chrétien, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est divinement inspirée, elle est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour rendre accompli l'homme de Dieu. Voilà, chers amis, ce qu'est l'écriture. On a dit de la deuxième épître à Timothée, cela a été rappelé souvent lors des grandes réunions d'études, on a dit souvent que la deuxième épître à Timothée était l'épître des ressources du chrétien. C'est d'une part le tableau de la ruine profonde de l'Église, cette grande maison où il y a un grand mélange, mais d'un autre côté, le chrétien. C'est-à-dire le témoin fidèle n'est pas sans ressources. Il y a toute une énumération de ressources depuis le début de l'épître jusqu'à la fin, et la dernière, c'est précisément celle-là. Toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, chers amis, la ressource suprême pour nous. Nous l'avons encore, la parole de Dieu, aujourd'hui, dans sa plénitude. Elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire. Il est parlé un petit peu avant les saintes lettres. Nous l'avons lu. Il est parlé des saintes lettres. Les saintes lettres, au jour où l'apôtre Paul écrit cet épître, étaient nécessairement les écrits de l'Ancien Testament. C'est pas le Nouveau Testament. Peut-être a-t-on dit quelques lignes du premier évangile. En fait, les saintes lettres, les écritures, quand l'apôtre saintes écritures, dont parle l'apôtre Paul, les saintes écritures, c'était les écritures de l'Ancien Testament. Et voilà pourquoi, chers amis, nous devons manifester un grand respect, pas seulement à l'égard du Nouveau Testament, mais encore à l'égard de l'Ancien Testament. Parce que la parole de Dieu, c'est cela. L'Ancien et le Nouveau Testament. Eh bien, sondons les écritures, mais ayons à cœur, chers amis, la lecture de la parole de Dieu. Nous terminons par une pensée sur les passages du livre de l'Apocalypse, lu au début de la réunion. En Apocalypse 1, nous avons verset 3 la déclaration de ce qu'est le bonheur dans un livre qui va nous parler du terrible jugement de Dieu, mais il est parlé de bonheur tout au début, comme à la fin. Bienheureux celui qui lit, chers amis, et ceux qui gardent. Il y a donc un homme qui lit. C'est un singulier. Par exemple, un frère lit la parole dans l'assemblée. Et qu'alors il y a ceux qui entendent. C'est l'ensemble de l'assemblée. Frères et sœurs, écoutons les paroles qui sont lues. Bienheureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Bienheureux celui qui lit, bienheureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Il est dit simplement la prophétie. La prophétie, c'est tout le ministère prophétique de la parole de Dieu. L'Ancien Testament, les écrits des prophètes essentiellement, et puis alors, dans le Nouveau Testament, nous avons les enseignements prophétiques de notre Seigneur à la fin des évangiles, et puis dans quelques épîtres, comme par exemple le Thessaloniciens 2, et enfin le livre de l'Apocalypse. C'est la prophétie dans son ensemble. Mais dans le dernier verset que nous avons lu, il est parlé de la prophétie de ce livre. Voici, je viens bientôt, bienheureux. Encore un bienheureux, chers amis. Il y en a le verset 7 dans le livre de l'Apocalypse, nous le savons. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. De ce livre, c'est alors le livre de l'Apocalypse. On entend souvent dire, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre difficile à lire, difficile à comprendre, et nous acceptons certainement cette remarque, tout en mettant un peu à part le premier chapitre, le chapitre 2 et 3, comme aussi le chapitre dernier, le chapitre 22e. Mais alors, on en arrive à dire, vaut-il la peine de lire le livre de l'Apocalypse dans son ensemble? Il y a en son milieu des révélations prophétiques si difficiles à comprendre. Vaut-il la peine de lire le livre de l'Apocalypse? Certainement. Et si nous ne sommes pas encore bien formés quant à la compréhension de la prophétie du livre de l'Apocalypse, il y a quand même des choses à dire. tout au cours de ce livre, qui mérite toute notre attention. Et nous permettons de terminer cette réunion en proposant cela à propos de la lecture du livre de l'Apocalypse. Déjà lire le livre de l'Apocalypse, mais dans son ensemble, pour croire ce que l'Esprit de Dieu dit du Seigneur Jésus, ça ne vaut pas la peine de lire le livre de l'Apocalypse. Et l'un des titres de notre Seigneur, 28 fois cité au cours de ce livre, l'agneau de Dieu. L'agneau. Chers amis, si nous essayons de lire le livre de l'Apocalypse pour voir tout ce qui nous est dit de l'agneau de Dieu, eh bien nous n'aurons pas fait une lecture inutile. Au contraire, on aura fait une lecture enrichissante, ça ne peut pas être autrement. Quand on lit la parole de Dieu, dans la pensée de découvrir quelques gloires nouvelles de la personne du Seigneur. Mais lisons le livre de l'Apocalypse, lisons ces nombreux passages qui nous parlent de l'agneau de Dieu. Mais il vaut, à cet égard, nous parlons d'une gloire du Seigneur, l'agneau de Dieu. Il vaut la peine de lire le livre de l'Apocalypse. Et nous pouvons certifier que ce sera là une étude, une méditation les plus enrichissantes pour notre âme. Apprendre à connaître ce que l'Esprit de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, nous dit de l'agneau, du saint agneau. C'est une étude simplement, purement merveilleuse. Et nous encourageons, et les frères, et pas seulement les jeunes, mais les frères plus âgés, à lire le livre de l'Apocalypse, dans cette pensée-là, découvrir les gloires de l'agneau. Ainsi, il ne faut pas nous décourager dans la lecture du livre de l'Apocalypse, le Seigneur alors, par la suite, nous donnera d'autres lumières, et nous accordera encore les secours de son esprit, et nous pourrons alors entrer davantage dans la compréhension des pensées prophétiques de ce livre. Je viens bientôt, dit le Seigneur. La parole de Dieu se termine sur la mention, trois fois répétée, de son retour. Voici, je viens bientôt, bienheureux, celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Pour les garder, chers amis, il faut donc d'abord les lire. Après les avoir lues, nous les gardons. Nous gardons les paroles de la prophétie de ce livre. Que le Seigneur nous donne essentiellement de nous souvenir de ces quatre témoignages qui sont fondamentaux, faut-il dire, ces quatre témoignages de l'Évangile selon Jean, le témoignage de Jean le Baptiseur, le témoignage des œuvres du Seigneur Jésus, le témoignage du Père lui-même, et enfin, le témoignage des Écritures dont nous parlons maintenant. Témoignages qui sont donnés là pour montrer que le Seigneur Jésus était vraiment l'envoyé du Père, et qu'il était venu, il est venu sur cette terre pour accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Que le Seigneur nous donne de prendre à cœur ces quatre témoignages, et qu'il nous donne, secondement, de prendre à cœur cet appel à sonder les Écritures pour apprendre à connaître Dieu, les merveilleuses pensées de Dieu. Alors, les connaissant mieux, nous pourrons aussi mieux conformer nos voies dans la vie pratique, nous pourrons les conformer nos voies davantage à ces pensées merveilleuses de Dieu. Que le Seigneur nous l'accorde à tous, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'aimer beaucoup sa parole, les Écritures, par moins 8 fois dans le grand psaume 119, il nous est parlé des délices. L'auteur de ce psaume 119 nous parle de la loi, des préceptes, des ordonnances, des statuts, et à 8 reprises, l'auteur de ce psaume nous dit que de telles ordonnances, en un mot, telles paroles, faisaient les délices de son âme. Que doit-il en être de nous, chers frères et sœurs? À combien plus forte raison nous-mêmes, qui n'avons pas seulement le livre de la loi, nous avons la parole de Dieu tout entière, dans sa plénitude, combien cette parole, sainte parole de Dieu, sainte écriture, devrait véritablement réjouir nos âmes, faire les délices de notre cœur.